On favorise les bons-ariens, les parasites, j'ai pas raison?
Mais si.
Et ça rapporte à qui tout ça, hein, je vous le demande? Au Metec, au Bico, au Rastaquer, j'ai pas raison?
Mais si.
Quoi qu'il en soit, mon cher Didier, votre famille aujourd'hui, c'est nous.
Libre Radio, la radio comme en famille. www.libradio.org.
Voilà, donc toujours en direct avec un, c'est ça, un jingle qu'on aime bien. C'est piqué au film des inconnus, nos sketchs des inconnus, dont le nom m'échappe maintenant, mais bon, voilà. Alors, nous sommes donc toujours en direct depuis la salle communale de Plainpalais à l'occasion du 75e anniversaire de la SLOCA. Nous venons de recevoir, et c'était une interview absolument remarquable que l'on recommande à tout le monde parce qu'elle contient voilà, toute cette série de droits que les citoyens et notamment que les locataires ont. C'était une interview en compagnie d'Irène Buche, qui est avocate de formation bien entendu, mais juriste à la SLOCA. Voilà, ça c'est une question de libellé légal au sein d'une association. Voilà, alors on ne saurait trop recommander l'écoute de ce podcast-là et puis surtout de se rendre sur le site internet qui est extrêmement bien fait de la SLOCA, www.sloca.ch, où là on trouve plein de belles choses concernant justement les droits des locataires, également le fait de pouvoir contester. On a vu que contester, ça paye, de savoir calculer le barème de son loyer, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est sur le site de la SLOCA, ainsi que toutes les informations concernant la permanence de soutien aux locataires, asloca.ch. Et voilà, nous sommes maintenant en compagnie de Guy. Bienvenue à toi.
Bienvenue, merci.
Avec plaisir, en tout cas, on est ravis de recevoir quelqu'un de Survap. Alors tout à l'heure, on annonçait cette interview en étant un petit peu mystérieux, on a voulu un peu teaser les gens en disant que se cache-t-il donc derrière cette mystérieuse acronyme qu'est Survap. Alors Survap, qu'est-ce que ça désigne?
Survap, ça veut dire survivre au paquis. Alors c'est vrai que Survap est né il y a maintenant 27 ans. D'une lutte que nous avions menée dans le cadre d'une association qui à l'époque s'appelait Vivre au Quai et qui s'était battue pour conserver le Palais Wilson dans le domaine public.
Très bien.
Puisque c'était quand même ça l'enjeu finalement.
Ouais,
puisque un grand hôtel genevois voulait bouffer le Palais Wilson avec évidemment la complicité des autorités municipales et cantonales. Et donc, on avait constitué cette association Vivre au Quai. Et déjà, là, il y avait une petite idée de dire est-ce qu'on appelle Vivre au Quai ou Survivre au Quai? Alors, finalement, on a survécu puisqu'on a, après incendie du 1er août du Palais du Désarmement, tout à fait douteux, enfin, etc., on a quand même gagné puisqu'on a, d'une certaine manière, maintenu ce Palais Wilson dans le domaine public. Enfin, en tout cas... c'est pas devenu une annexe de l'hôtel qui est à côté.
Très bien. Alors,
donc, voilà.
Ça, c'est parmi les hauts faits de Survap.
Oui, alors c'était Vivre au Quai.
Voilà, pardon, Vivre au Quai, voilà. Tout à fait. Mais peut-être commencerons-nous par... la plupart des gens ici à Genève le savent, mais comme nos auditrices et auditeurs viennent également pas mal de Lausanne, eh bien, peut-être de situer géographiquement et sociologiquement, sociétalement, si on peut dire, le quartier des Paquis.
Paquis, c'est un joli nom parce que c'est les pacages, c'est donc les prés. À Genève, pour ceux qui ne le savent pas, pour les Lausannois par exemple, il y a une rue qui s'appelle la rue de Champ de Poulet, c'était les basses-cours, et puis après il y avait des prés, c'était les Paquis.
Ouais, juste derrière la gare actuellement.
Voilà, enfin plutôt devant la, entre la gare et le lac.
Voilà, exactement.
Et là, c'était des prés. Il y a d'ailleurs encore quelques traces de cours de ferme dans le quartier des Paquis qui restent. C'est un quartier qui, à la fin du 19e siècle, Genève étant à l'époque la grande ville industrielle de Suisse, Genève avait besoin de main-d'œuvre. Et donc, on a vu arriver de la main-d'œuvre confédérée, notamment de cantons où les conditions étaient extrêmement dures, des paysans de montagne, etc. D'où le nom des rues au Paquis, rue de Berne, rue du Valais, rue de Bâle, rue de Zurich, etc. etc. Parce que ça a été, dès sa création, un quartier de migrants. Alors, dans un premier temps, des migrants confédérés, avec cette spécificité quand même intéressante que c'est au Paquis qu'on voit émerger les premiers logements subventionné. C'est-à-dire que l'État, ayant besoin de main-d'œuvre pour faire tourner l'industrie genevoise, a décidé de construire des immeubles au gaz à tous les étages. Et donc, c'est des immeubles qu'ils appelaient des immeubles sanitaires. Il en reste beaucoup dans le quartier des Paquis. Et d'ailleurs, c'est une de nos luttes, c'est de les maintenir. parce qu'ils ont une histoire ouvrière qui est extrêmement importante. Et c'est donc, les Panquis, c'est un quartier de migration dès le départ. Les vaches sont parties et puis des confédérés sont arrivés. Et puis après les confédérés, c'est les ouvriers italiens essentiellement qui sont venus à la fin de la Première Guerre mondiale. Puis par vagues, les ouvriers espagnols, portugais, etc. Donc ça a toujours été un quartier de migration et on tient à ce que ça le demeure. Voilà.
Quartier populaire, quartier ouvrier également. Quelles étaient ces industries qui étaient présentes par là? J'imagine l'horlogerie, l'imprimerie.
Alors, l'horlogerie, l'imprimerie, bien sûr, il y avait les ateliers Sécheron, qui étaient un énorme truc à côté de la gare, qui construisait des wagons, des locomotives, etc. Donc des gros trucs. Et puis, en dessus de la gare, vous aviez aussi toute une série d'industries, sociétés d'instruments de physique, etc., etc. Donc, il y avait sur cette rive droite, essentiellement de l'industrie. Mmh. Et donc, beaucoup de ces travailleurs de l'industrie habitaient dans le quartier des Paquis.
Effectivement, la CIP...
La CIP avait deux lieux de production.
Ouais. Ouais. Et quel en est l'héritage actuellement? Que peut-on dire de la composition du quartier des Paquis actuel?
Alors, le quartier des Paquis, il n'y a quasiment plus d'industrie à Genève. C'est un choix politique, on veut que du tertiaire, donc on veut du fric à court terme. Donc c'est clair que, les ouvriers qui arrivent encore à vivre dans le quartier des Paquis sont essentiellement des ouvriers qui travaillent dans le domaine de la construction. Mais il n'y a quasiment plus d'ouvriers qui travaillent dans l'industrie. D'ailleurs, il n'y a plus d'industrie au Paquis. La dernière industrie qui existait était une petite industrie qui était à la rue de l'Ancien Port et qui était une usine de bouchons, de bouteilles. Elle a disparu. On a encore des ouvriers dans le quartier des Paquis. Mais évidemment, la population a complètement changé. Et c'est vrai qu'on voit émerger dans ce quartier une forme d'embourgeoisement ou de gentrification, comme on dit, de plus en plus importante. Mais on n'a pu garder dans ce quartier toute la dimension multiculturelle.
D'accord.
Et ça, pour nous, c'est absolument incontournable.
Il y a quand même, ces dernières années, semble-t-il, une sorte de réputation un petit peu sulfureuse qui est apparue. Et cela, Guy, selon toi, comment est-ce que tu l'expliques ?
Le quartier des Paquis, il a toujours été aussi un quartier de fête, un quartier de bistrot où il y avait quelques accrochages, etc. C'est aussi le quartier de la prostitution. Donc, il y a évidemment... passablement de tapage, et il y en a toujours eu, c'est absolument pas nouveau. Je crois qu'il y a quelques années, on a stigmatisé le quartier des Paquis à des fins exclusivement électorales, et notamment, bien sûr, malheureusement, les partis d'extrême droite, UDC, MCG, qui, suivis par les partis de la droite, qui, quelque part, avaient une velléité assez clairement affirmée de nettoyer ce quartier pour en faire un Monaco sur les monts, parce que c'est vrai que c'est situé idéalement.
Exactement. En arrivant sur le lac, géographiquement,
c'est une merveille.
On imagine que les promoteurs doivent être tels des requins.
Ils bavent, quoi. c'est une pure merveille. Et donc, c'est vrai que pour certains milieux, c'est absolument insupportable d'avoir un quartier qui demeure, malgré tout, un quartier populaire, qui demeure, de mon point de vue, mais c'est un point de vue un petit peu subjectif, mais le quartier le plus agréable à vivre à Genève, de loin, malgré ses nuisances qui sont très importantes, c'est insupportable pour des promoteurs de voir qu'il y a encore des pauvres qui vivent dans ce quartier. C'est infernal.
Tout à fait. Pourrais-tu nous dire, selon toi, puisque tu es un habitant des Paquis depuis un moment, j'imagine?
Depuis 45 ans.
Ah, quand même, oui. Donc tu as vu des choses changer. Comment, selon toi, ce quartier, de ce point de vue-là, du point de vue humain, donc dans une période de 30-40 années, comment ce quartier a-t-il changé, a-t-il évolué? Et puis, y a-t-il pour toi encore des lieux clés Je pense à, je sais pas, au phare, je pense au bain des Pâquis, je pense. Y a-t-il des lieux mémoriels particuliers qui sont pour toi un peu la clé de voûte de ce quartier-là, qui, voilà, qui sont mémoriels, qui sont spéciaux, ouais, singuliers
ouais, ouais. Non, oui, bien sûr. Bon, alors, c'est clair que ce que je disais avant est valable sur 45 ans. J'ai vu le quartier évoluer vers une forme de gentrification, c'est absolument évident, avec une pression immobilière parfaitement insupportable. Et donc, peu à peu, d'une part, une rupture du lien social qui se fait pas seulement dans le quartier des Pâquis, malheureusement, c'est clair, mais une modification, bien sûr, du tissu social qui se fait au détriment de la mixité. Ça, c'est absolument évident. Des lieux emblématiques, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai des tout petits. J'ai des petits endroits, des petits coins de rue, des petites choses que j'aime encore qui subsistent. Et puis, c'est vrai qu'il y a un lieu emblématique qu'au sein de l'association, on aime beaucoup parce qu'on a mis 27 ans à la faire fermer, un peu moins, 25 ans, à faire fermer cette place qui est la place de la navigation, qui est le cœur du quartier, où se réunissent toutes sortes de gens différents. Pour moi, c'est le cœur de ce quartier.
Il y a énormément d'aventures également que si on ne va pas accompagner. J'aurais envie de parler de Châteaubriand, j'aurais envie de parler d'autres choses. Les histoires sont tellement multiples que s'il fallait en citer une, je pense que ce serait pas possible et ce serait même pas juste vis-à-vis des autres. Mais à Survap, avez-vous une collection, une archive consultable que les gens pourraient visiter et redécouvrir ou découvrir le quartier des Pâquis?
On a fêté nos 25 ans il y a 2 ans et on a pu faire à Châteaubriand une belle exposition, ce qui nous a donné la possibilité de foutre notre casque de spéléologue et de plonger dans les archives. Parce que, évidemment, on n'a jamais rien foutu à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est des classeurs, tout est mélangé. Et c'est vrai qu'on s'est mis à quelques-uns pour recommencer, je dirais, à mettre un peu d'ordre dans nos archives qui sont importantes. Il y a des très jolis documents. Il y a des choses plus, je dirais, plus emmerdantes parce que c'est des lettres, des échanges de trucs avec des magistrats, etc. Mais il y a des jolies images, il y a des jolis documents qui racontent un petit peu toutes les luttes que nous avons pu mener, nous et d'autres, d'autres associations. Parce que je rappelle quand même que c'est un quartier qui est extrêmement riche sur le plan associatif.
On va y venir, ouais, tout à fait.
Donc on a rarement été, même si on a souvent initié des luttes, on a rarement été seul dans ces luttes. Donc on est en train, là, peu à peu, de mettre de l'ordre dans nos archives. Simplement, comme on n'a pas de locaux, elles ne sont pas consultables. Et puis, il faudrait qu'on puisse guider quelqu'un qui souhaiterait les consulter. Mais on se donne une dizaine d'années encore, peut-être, pour faire en sorte que ça puisse être accessible.
Mais ça veut dire que c'est parmi les projets ou les envies de Survap.
Oui, absolument, parce qu'on a une masse de choses. Et c'est vrai que tu n'es pas la première personne à me poser la question, parce qu'il y a pas mal de gens qui souhaiteraient pouvoir consulter un certain nombre de documents. On ne s'en est pas bien rendu compte de ça, de l'importance de tout ça. Et il faut qu'on se mette au boulot, puis on n'est quand même que des militants bénévoles. Donc c'est... Mmh. Voilà, et puis des fois on a envie de se poser.
Absolument, et puis d'être apaisé et de profiter de la contemplation
Exactement.
Du quartier.
Oui.
Alors le bain des Pâquis, c'est aussi là. Là on avait pu interviewer Jean-Pierre Balmer,
oui.
qui faisait partie des gens qui ont initié voilà.
Bien sûr.
Le bain des Pâquis. C'était extrêmement intéressant aussi. Et effectivement, c'est accolé au quartier des Pâquis. Et là aussi, c'est une parmi les singularités géographiques et sociales, j'aurais envie de dire, le bain des Pâquis. Alors justement, revenons-en, parce qu'effectivement, on l'a dit, un quartier, c'est un lieu géographique. Ce sont des différentes histoires, et des luttes et des gens, des personnes. Est-ce que les rapports sociaux au Pâquis sont un petit peu différents par rapport au reste de la ville à Genève?
Il l'était.
Selon toi.
Il l'était. Il le reste un peu, mais c'est en train de s'étioler, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'uniformisation. C'est vrai aussi qu'on assiste au Pâquis à l'arrivée de beaucoup d'habitants qui sont là pour des périodes, je dirais, relativement courtes.
Ouais.
C'est vrai que ces gens investissent peu. En termes de citoyenneté, le quartier. Ils l'investissent différemment, ils fréquentent les lounge bars, ils fréquentent les lieux, je dirais, plutôt friqués, parce que c'est une population riche. C'est ce que je voulais un petit peu dire aussi par rupture du lien social. C'est-à-dire que peu à peu, cette sorte de enfin cette convivialité qui parfois pouvait être pas uniquement de la convivialité. Il y a eu quelques grosses bagarres au paquis. Mais cette atmosphère un peu particulière du quartier, on est en train un petit peu de la perdre, malheureusement.
On va le dire, cette population, c'est beaucoup les internationaux qui arrivent avec des mandats réduit de quelques années, voire peut-être même moins, et qui effectivement du coup souvent ne parlent pas le français en plus. Alors c'est pas un grief qu'on leur fait, mais c'est une réalité qu'on constate et qui effectivement malheureusement du coup sont moins à même d'entrer dans le tissu des paquets. Ça c'est effectivement un petit peu regrettable. Alors comment vivent ces évolutions-là des personnes comme toi qui êtes là depuis longtemps? Est-ce que pour vous voilà c'est un peu triste, ou alors c'est un défi? Il faut se réinventer certaines luttes, et au sein de Survap, ça pourrait être, pourquoi pas, un des défis de la prochaine décennie, c'est d'arriver à maintenir et à raviver peut-être cet esprit paquisard et à le faire de manière à ce que même les personnes qui viennent que pour un temps limité puissent, parce que finalement, même pour quelques semaines et quelques mois, comme des vacances, ça pourrait être intéressant d'entrer dans des tripes de ce quartier.
Oui, alors bon, c'est clair que c'est extrêmement difficile avec cette population qui vient séjourner quelque temps dans le quartier. C'est souvent des gens qui viennent des hedge funds ou de ce genre de trucs, donc qui n'ont strictement aucun intérêt pour le quartier. Donc je dirais que on va pas passer une énergie énorme à essayer alors de les rencontrer, de faire quelque chose avec eux. On reste bien arc-bouté, et ça continue quand même de bien fonctionner, dans notre relation avec les différentes communautés, notamment par exemple bien sûr la communauté portugaise qui est extrêmement présente au paquis, et pas seulement au niveau des bistrots mais au niveau culturel, etc. Mais je rappelle il y a quand même à peu près 102 ou 103 communautés différentes dans ce quartier. Je rappelle aussi que c'est un quartier où la majorité de la population est étrangère. Et c'est d'ailleurs le quartier qui est en Suisse, l'arrondissement électoral qui est en Suisse, vote le plus pour les étrangers. C'est là que l'UDC ou le MCG font leur plus mauvais score. Donc ça, c'est une réjouissance. Et puis là, on se dit, on a un petit bout c'est aussi un peu grâce à nous. On essaie de maintenir le lien avec les communautés qui sont installées dans le quartier, et ça marche assez bien quand même. Les gens, une fois qu'ils sont installés, ils ont des enfants qui vont à l'école, ils s'intéressent à la qualité de vie dans le quartier, à l'aménagement, aux espaces verts, etc. Et donc c'est un premier ancrage qui nous permet, je dirais, d'entrer en relation. Puis après on passe sur des problématiques plus, je dirais, plus politique, que sont une des grandes problématiques qu'on traite, qui est la problématique du logement.
Tout à fait. Et alors parlons un petit peu de ce tissu associatif qui est vif dans le quartier des Paquis. Il y a beaucoup d'associations, qu'elles soient effectivement communautaire, mais je dis communautaire dans le bon sens du terme, qu'elle soit culturelle. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. On va peut-être dire aussi également qu'il y a la Traverse, qui est une salle de spectacle qui est occupée. Il y a la maison de quartier, il y a beaucoup de choses. Il y a des festivals, il y a plein de choses. Sur VAP, j'imagine que vous travaillez également, tu l'as dit tout à l'heure, avec d'autres associations. Est-ce qu'on peut dire que ce tissu associatif, lui, est au moins, alors s'il n'est pas en plein essor, au moins qu'il se maintient?
Alors oui, je crois qu'il est en train de s'enrichir. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hier encore, j'étais à une séance où une nouvelle association est née pour s'occuper d'une cour intérieure. Alors il y a des associations qui ont des objectifs ténus, importants mais ténus sur des, et puis il y a des associations qui ont effectivement des buts plus larges. On a fondé il y a une dizaine d'années un collectif qui s'appelle Bien Vivre au Paquis, BVP, qui regroupe actuellement 12 associations différentes. Ça va de Aspasi, l'association qui s'occupe des travailleurs et travailleuses du sexe, l'association des parents d'élèves, Survap, la maison de quartier qui est un soutien également, et d'autres. Ce collectif fonctionne assez bien dans la mesure où il nous permet de formuler ensemble un certain nombre de revendications vis-à-vis des pouvoirs publics. D'accord. Donc le tissu associatif dans ce quartier est extrêmement vivace. C'est vraiment un outil assez formidable pour améliorer le sens et la qualité de vie dans le quartier.
Bien sûr. Et alors là, est-ce qu'on pourrait dire que Survap, à un moment donné, pourrait également être le vecteur, ou être en tout cas peut-être presque même une fêtière de ces associations-là? C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, c'est depuis 27 ans que Survap est sous une autre appellation au début, mais qu'elle est présente dans les paquis, donc ça va être une des plus anciennes associations sur place. Est-ce que là, il y a un rôle peut-être que Survap peut remplir de remise en perspective et de remise en lien de ces associations?
Alors, Survap, on a été fêtier, et on l'est toujours par rapport à notamment ce collectif BVP. Hein, c'est nous qui le gérons. Parce qu'on en a besoin. C'est vrai que sur VAP, ne nous le cachons pas, on est quand même très politisé. Donc, sans appartenir à aucun parti politique, mais on a quand même. On est clairement orienté très à gauche.
Oui,
et que, évidemment, par rapport à d'autres associations qui sont moins politisées, voire qui se revendiquent apolitiques, nous, on l'est. Et puis on le revendique. Parfois, c'est vrai qu'on a plus besoin du collectif parce que ça passe mieux auprès des autorités, notamment. Donc on a été fêtier pendant longtemps, on continue de l'être, mais on vieillit aussi. Il faut savoir que la moyenne d'âge du comité de Survap, elle doit tourner autour de 60 balais. Donc, chose assez rassurante aussi, c'est que depuis 2-3 ans, il y a beaucoup de jeunes qui nous ont rejoints et donc qui vont prendre la relève. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant. Alors, comment vont-ils, eux, s'emparer de l'association et que vont-ils en faire? Je l'ignore, mais j'espère que Survap va continuer, je dirais, de garder ce rôle un petit peu de couche du coche, de mouche du coche, couche du moche, de mouche du coche, donc de stimulant, un petit peu dérangeant et effectivement libertaire un petit peu dans le quartier.
Alors justement, la question évidemment, elle est obligatoire puisque c'est un thème d'actualité. Il y a eu quelques petits frottements concernant les contrats de quartier au paquis. Je sais qu'il me semble que le comité avait même démissionné en bloc pour dire que voilà, par rapport à la ville, c'est un petit peu compliqué de fonctionner pour le moins au paquis, en tout cas selon eux. Est-ce à dire que les rapports avec, alors je prends cet exemple-là et je l'étends à Survap, est-ce à dire que lorsque l'on naît au paquis, les relations avec les politiques, avec les institutions, sont plus délicates, plus compliquées?
Le 90% des problématiques qu'on traite concernent l'État. À Genève, l'État a un pouvoir considérable par rapport aux municipalités et en particulier de la ville de Genève. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que la ville peut être un interlocuteur, peut parfois, dans certaines situations, nous soutenir dans des revendications vis-à-vis de l'État, mais ne serait-ce que pour faire un passage protégé, c'est l'État, c'est pas la ville. C'est vrai que la problématique du logement, c'est l'État. L'aménagement, c'est l'État. Une fermeture de rue, c'est l'État, enfin, etc. Donc, nos relations, elles sont essentiellement avec l'État. Et évidemment, elles sont compliquées vu la majorité politique de l'État. Concernant le contrat de quartier, c'est vrai que nous avions demandé, nous nous étions réunis lorsque nous avons créé le collectif BVP, on avait demandé une commission tripartite, État-Ville. Association pour discuter de l'ensemble des préoccupations et des problèmes qu'on rencontrait dans le quartier, et notamment c'était l'époque où le quartier avait été très stigmatisé par l'extrême droite, et notamment concernant les problèmes liés à la vente de drogue, puisque ça reste un truc récurrent qui semble beaucoup inquiéter les gens, etc. Et donc on avait demandé cette commission tripartite, on ne l'a jamais obtenue de la part de l'État. C'est-à-dire que l'État s'est toujours absolument opposé à nous rencontrer et à discuter par rapport à ça. On a pensé à un moment donné que le contrat de quartier pourrait avoir une fonction un petit peu de résonance sur un certain nombre de projets, de résonance et d'appui de nos revendications vis-à-vis de l'État. C'est vrai qu'au moment où le contrat de quartier s'est créé, on n'était pas dupes, on savait bien que la ville avait peu de prérogatives, mais il a eu le mérite de démarrer, de concerner beaucoup d'habitants qui appartenaient pas du tout à l'association et qui ont par ailleurs découvert la vie associative du quartier. Donc ça c'était, je dirais, le point positif de cette ébauche de contrat de quartier qui a été fait. Mais il est vrai que très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de la ville des résistances majeures. On obtenait un pot de géranium à un coin de rue, ça c'était possible, mais ne serait-ce que pour obtenir une Vespasienne, un truc comme ça, c'est absolument inconcevable. Donc c'est vrai que la complexité des rapports avec la ville sur des éléments qu'elle pouvait, où elle pouvait prendre des décisions, était insurmontable. À un moment donné, vu la masse de travail que ça représentait, le fait que nos interlocuteurs changeaient constamment au sein du contrat de quartier, ça a commencé avec Tartampion, après il y avait Tartignol, après il y avait avec des gens qui souvent étaient relativement incompétents parce qu'ils n'avaient pas connaissance des dossiers, fait que les gens se sont fatigués et qu'on a décidé de finalement d'abandonner ce contrat de quartier et de repartir sur des revendications comme on les a toujours faites en dehors du contrat de quartier. D'ailleurs, un certain nombre de revendications du contrat de quartier, on les reprend maintenant sans le contrat de quartier. Oui. La croix verte à l'intérieur du quartier, par exemple.
Ok, j'ai encore trois questions et puis...
Mais pas de problème. Oui.
Très bien. Non, parce que comme je ne veux pas non plus trop prendre de ton temps. Il y avait eu toute cette polémique autour du contrôle des caméras installées un petit peu partout au Paquis. Comment Survap a réagi à ça? J'imagine qu'effectivement, c'était un petit peu problématique pour vous. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Nous, Survap, on est évidemment totalement opposés au dispositif de vidéoprotection. Voilà. On ne doit pas dire caméra. C'est interdit. On doit dire vidéoprotection. Ça, c'est Maudet qui a dit, il ne faut pas déconner avec ça. Évidemment qu'on y est. Dès le départ, on a marqué notre opposition face à ce projet qui est ridicule. D'une part, parce que nous revendiquons une police de proximité, c'est-à-dire une police qui connaît le terrain, qui est à pied, qui connaît le tissu du quartier, qui a une connaissance des réalités sociales de ce quartier, ce qui n'existe plus. On réclame par exemple le rétablissement de la brigade du bruit. Il y avait une brigade du bruit, il y avait deux mecs qui s'occupaient de ça et qui étaient vachement, d'une part, sympas et d'autre part, préventifs, efficaces, qui discutaient, etc. Ça n'existe plus. À la place, on nous met des caméras qui, finalement, ont pour fonction. D'une part, une fonction électorale, c'est bien évident, avec un coût quand même pour l'élection d'un magistrat qui est quand même relativement élevé. Et deuxièmement, qui ont une fonction finalement publicitaire, dans le sens où on trouve par exemple sur certains dépliants d'hôtels de luxe la mention de la présence des caméras. Vous êtes protégé quand vous descendez au Paquis par les caméras. D'autre part, c'est vrai que sur le éthiquement, cette dérive Big Brother est insupportable. Évidemment, tout ce qui contribue à nous faire repérer de près ou de loin par ces moyens électroniques débiles, on est contre. C'est une évidence. Troisièmement, l'endroit où sont mises les caméras, on a tout de suite dit au magistrat que, effectivement, le trafic de drogue allait se déplacer du côté de l'école. Et deux heures après, c'était le cas. Alors maintenant, évidemment, les partis de droite veulent fermer l'école alors qu'elle était ouverte au public, que c'était un lieu ouvert d'échange avec certes un certain nombre de problèmes qui se posent, mais un lieu qui restait ouvert. Non. Là, puisque le trafic s'est déplacé, puisque les fêtards urinent dans le préau, eh bien, on va fermer l'école. Donc, les caméras, on y est évidemment totalement opposés. Les sondages qui ont été faits, les études qui ont été faites, notamment par l'Université de Neuchâtel, montrent que l'écrasante majorité de la population soutient à fond les caméras. Ils veulent plus de flics, plus de caméras. S'ils pouvaient avoir des chars d'assaut dans la rue, ils seraient fous de joie. Ouais. Enfin, c'est évidemment cette dérive sécuritaire désolante à laquelle on assiste.
Tout à fait. C'est vraiment regrettable parce qu'on voit la nocivité de ces caméras qui, effectivement, entrent de plein pied et supplantent le rapport humain. l'humain, la discussion, la négociation. Ouais. Tout à fait. Est-ce que cette enquête, parce que nous nous étions renseignés, nous avions malheureusement pas réussi à faire l'interview de ce ou ces professeurs de l'université de Neuchâtel. Oui. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'on peut la trouver?
Oui, elle est disponible sur le site de l'université de Neuchâtel.
Très bien. Alors ça, c'est bon. Ça, voilà.
Moi, j'ai participé à cette enquête puisque j'ai été le délégué de Survab dans la appelons ça la commission d'évaluation. Mm-hmm. Bon, c'était assez surréaliste parce qu'il y avait beaucoup de policiers. Ouais. Moi, j'avais pas l'habitude quand même. Mais des mecs sérieux, bien, tout impeccable, puis gentil. J'ai pas été arrêté. Tout ça, mais c'était l'étude de l'université de Neuchâtel est intéressante parce qu'elle est nuancée. Mm-hmm. Elle montre notamment que, après quelques mois d'expérience sous les caméras ou la soi-disant criminalité, mais par criminalité, il faut bien entendre, je sais pas, un vol de bagnole ou un type qui fout une claque à un autre, enfin ce genre de truc, a un peu diminué, puis ensuite elle a augmenté. Et elle est devenue supérieure à la criminalité, toujours entre guillemets, qui existait avant la pose des caméras. Donc, le système, à l'évidence, n'est pas probant. Mmh. Il n'amène pas un plus en termes de sécurité. Il amène certainement un plus, malheureusement, en termes de sentiment de sécurité. Mmh. Voire maintenant, ce serait intéressant de la refaire, l'étude. Parce que les gens se sont habitués et c'est comme si le dispositif n'existait plus. Donc, voilà, il n'en demeure pas moins qu'il existe, qu'on nous filme et que c'est parfaitement insupportable.
Oui, absolument. Et que cette enquête donc est disponible sur le site de l'Université de Neuchâtel.
Tout à fait.
Ça, c'est intéressant. Alors, passons complètement à autre chose. Comment manque-t-il? Et puis, on va doucement arriver au terme de cet entretien. Mais selon toi, comment manque-t-il actuellement au Paquis pour recouvrer, développer cet esprit dont on parlait tout à l'heure? Et puis, même ce mieux vivre ensemble. Enfin, quand je dis ce vivre ensemble, tout simplement, le fait que l'on puisse entrer en interaction avec ses voisins, avec des personnes qui sont par ici et par là. Voilà, qu'est-ce qui manquerait au Paquis? Est-ce que ce sont plutôt, je dirais, des lieux, des places confortables, du mobilier urbain qui manque? Je ne sais pas, est-ce que tu as un diagnostic de ce côté-là?
Moi, je pense que la crise immobilière, la violence des milieux immobiliers, où effectivement on assiste quand même à des expulsions, on assiste quand même à un quartier qui se vide de sa population populaire.
Ouais.
C'est évidemment la cause du changement d'ambiance ou du changement d'atmosphère ou de convivialité qui peut exister dans le quartier. C'est la grande cause, c'est un énorme problème. La spéculation immobilière est massive, la densification est de plus en plus importante, la circulation n'a pas diminué réellement, et donc les nuisances, les nuisances diverses et variées contribuent à casser ce lien indispensable dans un quartier. À ça s'ajoute la multiplication d'une forme d'uniformisation des commerces. Il n'y a plus de commerce de proximité, c'est plus que des dépanneurs, etc. Les lounge bars, le blanchiment d'argent, parce que la véritable criminalité au Paquis, ce n'est pas les dealers, ce n'est pas là que ça se passe, c'est bien entendu ailleurs. Il y a énormément de fric à placer et il y a effectivement des organisations qui s'installent, qui rachètent tous les coiffeurs, qui rachètent tous les bistrots, etc. Et ça uniformise et ça casse. Le dialogue, la convivialité, le plaisir d'être ensemble dans ce quartier. Donc je pense que ça, c'est une des causes. Néanmoins, ça reste toujours un quartier festif. J'en veux pour preuve que, par exemple, on arrive à relancer, ça recommence demain, le ciné-club du quartier, Paquino, qui recommence demain. Ça a été un gros boulot parce qu'on l'avait perdu, ce ciné-club. Survap l'avait fondé, on l'avait perdu. On était aussi fatigués, mais... Et puis là, ben, le tissu associatif se remobilise. Il n'y a pas que Survap dans dans cette histoire maintenant. Et c'est intéressant parce qu'on relance un projet de ciné-club convivial et sympa. On passe même un film de Kurosawa au mois d'avril où la communauté japonaise du quartier est prête à se mobiliser pour venir et nous faire des sushis. Donc il y a des trucs qui se passent qui sont de belles lueurs d'espoir.
Ouais, Paquino, lancement du ciné-club de votre quartier. Ce sera à la maison de quartier des Paquis le dimanche 15 octobre de 11h à 17h. On peut apporter un plat à partager.
Il y aura et puis, le repas est offert. Voilà. C'est le principe de Paquino.
Ouais.
C'est 1 franc par film pour 5 films, donc 5 francs.
Voilà, donc c'est tout à fait
abordable.
On ne voulait
pas faire du ciné-club à 2 balles, donc on l'a fait à 1 balle.
C'est 1 balle, carrément. Très bien, très bien. Alors, justement, pour continuer, certainement qu'il y a des outils, et tu viens de le dire, le ciné-club reprend, il y a des outils pour dépasser, pour recouvrer cette convivialité, ce vivre ensemble dont on parlait tout à l'heure. Au sein même de Survap, tu l'as déjà ébauché, mais de quoi auriez-vous besoin? Parce qu'effectivement, tu as dit qu'il faut qu'il y ait un renouvellement des générations, certes, bien sûr. Il faut que les anciens restent quand même, parce que voilà, ils ont aussi des choses à dire, des expériences à partager. Qu'est-ce qui manquerait à Survap? Est-ce qu'il faudrait plus d'adhérents, que les gens viennent et adhèrent en masse? Est-ce qu'il faudrait que Survap prenne un lieu, un local pour l'animer, pour pouvoir étendre ses activités, avoir peut-être un point de repère, une centralité au Paquis? Quels seraient ces outils que tu aurais identifiés?
Alors, bon, il y a effectivement un projet éventuel avec la ville de Genève, que les associations puissent avoir une forme de maison des associations, mais qui ne serait pas appelée comme ça, parce que politiquement, ça ne pourrait pas passer. Mais il y a le projet qu'on puisse avoir un local avec d'autres.
Mais c'est une aspiration, ça, de Survap.
Alors ça, c'est vrai que ça nous serait bien utile, et notamment pour le problème des archives dont on parlait avant. Mais je crois que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, je crois, puis je le dis sans déconner, je pense qu'on a besoin de souffle nouveau dans l'association. Mm-hmm. On en a, les gens commencent à venir. C'est une grande association, hein, on a pas mal de membres. On doit tourner actuellement autour à peu près de 400 familles. Donc ça fait quand même pas mal de monde, ça en fait même beaucoup à gérer, et puis on a besoin de renouvellement. C'est clair qu'on a besoin de regards nouveaux, on a besoin de jeunes et de jeunes femmes si possible, parce qu'il y a quand même beaucoup trop de mecs dans cette association. Okay. et trop de vieux.
Y a-t-il également des tâches spécifiques auxquelles qui pourraient être attribuées?
Alors les jeunes qui viennent là maintenant, ils confondent pas un ordinateur et une cafetière.
D'accord.
Ce qui est mon cas. Donc c'est pratique parce que ils nous ont fait un site, ils nous mettent sur les réseaux sociaux. Parce que moi, c'est juste envoyer un mail et puis le recevoir, enfin, ce qui est déjà bien, je suis déjà assez content. Donc, ils nous aident beaucoup à ce niveau-là, mais surtout, ils nous aident par leurs compétences et leurs regards nouveaux sur le quartier. Et ça, je crois que le quartier en a besoin. A besoin d'un regard nouveau, de gens qui ont des préoccupations de maintenant, qui ne sont pas des retraités et qui ont envie de construire leur quartier. Mmh. Et ça, c'est important. Et nous, les vieux, on est prêts à les accompagner dans ce projet.
Super. Ça, c'est une belle aventure, en tout cas.
Ah oui, c'est une belle aventure.
Certainement. Alors, donc, on l'a dit, les prochains défis pour Survap, c'est effectivement de recruter. Et trois petits points, ce serait quoi les prochains défis?
Le grand défi, c'est de continuer le combat sur la problématique de l'immobilier. Mmh. Ça, c'est une véritable horreur, que ce soit les surélévations dans le quartier des Paquis, qui évidemment n'ont pas créé un seul logement, puisqu'elles ne sont uniquement dévolues qu'à la spéculation, que ce soit les ventes d'appartements. On est dans un retour des congés-ventes, du saucissonnage des immeubles avec des ventes d'appartements, donc des expulsions de locataires, évidemment avec un changement du tissu social que ça implique. Donc le grand enjeu, c'est toute la problématique du logement et de la spéculation au Paquis.
D'accord. Eh bien, nous, on va se tenir bien sûr informés en alerte par rapport à ça et on continuera à relayer toutes ces informations-là. On espère bien entendu retravailler et puis intervenir au paquet, que ce soit avec Survap et les autres associations. Guy, je te remercie beaucoup.
Mais merci à toi.
Avec beaucoup de plaisir. Peut-être maintenant, on devrait, pour terminer, rappeler le site internet de l'association et puis une adresse de contact. Mais j'imagine que...
C'est Survap, qu'elle est... ça doit être... Mais je... Ça doit être survap.ch. Enfin,
on va essayer tout de suite, d'accord. Comme ouais. ça, on donne des vraies informations. Et puis voilà, exactement, le nouveau site,
ah bah voilà,
survap.ch, survap.ch.
Donc tu vois que j'ai quand même quelques compétences.
Ouais. Et là, il y a en première page maintenant, bah, justement, le brunch du dimanche avec du Paquino. C'est la prochaine actualité. Merci beaucoup, Guy.
Voilà, merci à toi.
Et puis à bientôt.
Et à bientôt.
Tiens. Voilà, petite pause musicale et puis je crois que pour aujourd'hui le direct va s'arrêter là. Oui, c'est cela. Alors pour toutes les auditrices et auditeurs, eh bien aujourd'hui on a fait un petit direct quoi 5 heures, un truc dans le genre. Hein. C'était sympa. On a fait un petit décrochage au Parlement des inaudibles. Décrochage splendide. Le podcast sera à disposition. Quand je dis splendide, c'est en termes humains. Il est extrêmement triste à vivre parce que les inaudibles désignent là, en l'occurrence, les personnes qui n'ont pas accès à la parole. Et donc, ça veut dire des gens qui sont dans des situations délicates, pour le moins délicates, pour utiliser un euphémisme. Et c'était triste d'apprendre et de découvrir toutes ces personnes-là qui ne renoncent pas quand même à avoir de l'espoir, sauf dans des situations vraiment où il y a des moments voilà, où on fait, effectivement on est dans le creux de la vague. Ce sera à découvrir sur le site de Libre Radio, www.libreradio.org. Nous, on se retrouve demain pour des podcasts, des enregistrements, pas de direct demain, dimanche 15. On parlera Abdullah Öcalan, on parlera Thomas Sankara. Et puis sinon, pour le direct, c'est la semaine prochaine, 14-17h, depuis le festival aux grottes, l'expo des poteaux. Voilà, à la prochaine et rappelle-toi que sur le site www.libreradio.org, tu retrouves tous les podcasts. Également, tu peux t'inscrire à la newsletter. Ciao.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles.